Bien, bonsoir à tous. Je vois que le froid n'a pas quand même ralenti l'ardeur de tout le monde. Merci d'être là et bienvenue pour cette 21e soirée d'éthique publique, la troisième de cette année universitaire des facultés jésuites de Paris. Bienvenue aux fidèles de ce rendez-vous du premier mardi de chaque mois. Bienvenue aussi à ceux qui sont là pour la première fois. Ces soirées se veulent comme des fenêtres sur des réalités sociales, politiques, internationales qui nous concernent tous d'une manière ou d'une autre. Et l'objectif de ces rencontres est tout simplement d'essayer de nous donner les uns aux autres quelques éléments de compréhension, d'analyse, repérer des critères ou des pistes qui nous permettront de continuer notre propre réflexion personnelle ou avec d'autres. Et je précise pour ceux qui sont avec nous ce soir pour la première fois que le point de départ est donc la parole d'une ou deux personnes qui vont partager simplement, en confiance, comment ils perçoivent les enjeux de telle réalité. Leur parole n'est évidemment pas une parole définitive, mais une parole qui est là pour ouvrir à d'autres paroles, à d'autres réflexions. Il est possible, je le rappelle, de s'inscrire à l'accueil au secrétariat, si vous désirez être informé par mail du thème de la prochaine rencontre, de même qu'il est possible d'écouter ou de réécouter l'enregistrement de la soirée sur le site internet du Centre Sèvres, www.centresèvres.com. Je fais ma publicité à chaque fois. Le mois dernier, nous nous sommes arrêtés sur une actualité tragique, sur la situation des chrétiens d'Orient. Ce soir, nous restons en France, alors que notre pays vient de sortir d'une crise sociale importante à propos de la réforme des retraites. Il nous a semblé important d'essayer d'en tirer quelques leçons et de nous interroger que nous dit cette crise de l'état de la société française et du dialogue social. Chacun a-t-il tenu son rôle ? État, syndicats, organisations patronales, citoyens. Et lorsqu'on regarde l'avenir proche ou plus lointain, eh bien, quels sont les chantiers incontournables qui attendent notre pays ? Quelles sont les conditions aussi de la réforme ? Comment s'y prendre pour que notre pays regarde la réalité économique, sociale en face ? Consente à des décisions difficiles mais indispensable, sans pour autant qu'une part importante de la population ait le sentiment d'injustice, d'inégalité de traitement ou de manque d'écoute. En d'autres termes, après le débat sur les retraites, eh bien, où en est la France ? Pour nous aider à réfléchir ce soir, je suis très heureux d'accueillir en votre nom nos deux invités. D'abord, Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux, merci de votre présence ce soir parmi nous. Vous êtes né, je crois, en 1962, ce qui, à mes yeux, est une très bonne année.
Pas en Bordeaux, hein. Malheureusement.
Diplômé de l'ESSEC, vous décidez, au sortir de l'école, de vous engager dans les commandos de marine. Vous y resterez 2 ans, avant d'aller voir un autre terrain d'affrontement, qui est celui de la finance. C'est ainsi que vous rejoindrez à partir de 1986 le groupe L'Oréal, au sein duquel vous occuperez durant une dizaine d'années différents postes de direction en France et à l'étranger. Mais tout au long de ces années, eh bien, vous ne perdrez jamais de vue le projet de monter votre propre société et vous vous lancerez en 1996 dans le secteur de la téléphonie mobile, encore balbutiant à l'époque. C'est ainsi que vous ouvrez The Phone House, l'un des tout premiers magasins consacrés uniquement aux téléphones portables, bâtissant en quelques années le premier réseau indépendant de vente de téléphones mobiles. Depuis, eh bien, vous n'avez pas quitté ce secteur, montant de nouveaux projets, et vous êtes actuellement le patron heureux de Virgin Mobile France. Oui, oui. Alors évidemment, tout cela vous laisse beaucoup de temps libre. Et vous vous êtes investi peu à peu sur de nombreux autres fronts, et je ne fais qu'en citer quelques-uns. Vous avez ainsi présidé entre 2005 et 2008 l'association Croissance Plus, je ne sais pas comment la définir, peut-être une sorte de syndicat, je ne sais pas s'il faut employer ce mot, des entreprises les plus productives de l'Hexagone, qui réfléchit aussi aux conditions et aux enjeux éthiques du développement, et des performances de l'entreprise dans notre pays. Vous êtes également, si je ne me trompe pas, au conseil de surveillance du groupe PSA Peugeot Citroën. Vous avez été aussi l'un des membres de la commission pour la libération de la croissance française, dite commission Attali, qui a remis son rapport au président de la République en janvier 2008. Et quelques mois après, eh bien, vous étiez élu président de l'UNEDIC, poste que vous occuperez jusqu'en janvier dernier, laissant la place, comme le veut le système paritaire, à Monsieur Bonan de la CFDT, dont vous êtes le vice-président. Alors, votre parcours professionnel, votre connaissance de la finance, des enjeux pour l'avenir de l'économie française, votre bonne connaissance des rouages du dialogue social, fait de vous un observateur privilégié de l'état de notre société française aujourd'hui, au lendemain de la réforme des retraites, et merci donc de votre présence parmi nous. À ma droite, quelqu'un que vous connaissez bien, je pense que vous avez eu l'occasion de vous rencontrer régulièrement autour de quelques tables, autre connaisseur, s'il en est, des rouages du dialogue social, Monsieur Marcel Grignard, secrétaire national de la CFDT depuis 2005. Vous en êtes le secrétaire général adjoint depuis juin 2009. Votre engagement syndical vient de loin, électronicien dans un grand groupe industriel de la métallurgie, de 1973 à 1993. Vous avez, je crois, rapidement exercé des mandats de représentants des salariés et des responsabilités syndicales, locales puis nationales. En 1993, vous avez été élu secrétaire national de la Fédération générale des mines et de la métallurgie, dont vous êtes devenu secrétaire général en 2000. Vous avez intégré à cette date le bureau national confédéral de la CFDT, devenant ainsi l'un des bras droits de François Chérec. Toutes ces dernières années, vous avez eu en charge au sein de la CFDT plusieurs dossiers sensibles, la coordination de l'activité revendicative, et on vous a vu en première ligne ces derniers mois dans les réunions intersyndicales de coordination avec les responsables des autres syndicats, le dialogue social et les institutions représentatives du personnel, la politique européenne, les politiques industrielles, la recherche, le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises. Tous ces différents chantiers qui sont aussi pour vous des centres d'intérêt vous ont rendu sensible aux évolutions que connaît notre société, conscient aussi des changements que les acteurs sociaux doivent opérer, et vous avez ainsi coordonné en 2009 la rédaction d'un rapport intitulé, je crois, « Le syndicalisme à un tournant, oser le changement ». Européen convaincu, vous êtes, si je ne me trompe pas, membre du bureau national du mouvement européen et vice-président de Confrontation Europe. Alors, dans un emploi du temps que nous devinons aussi bien chargé, merci de votre présence et de votre disponibilité. Et sans plus attendre, eh bien, je vous laisse la parole pour une quinzaine de minutes environ pour démarrer notre soirée.
Merci. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire plus court. Je dois d'abord vous remercier de m'avoir invité. Parce que je suis devant un auditoire qui ne m'est pas habituel. Je trouve toujours très très intéressant de dire un certain nombre de choses, de confronter un certain nombre de points de vue sur des enjeux lourds, et de vérifier comment des gens que je côtoie pas tous les jours apprécient à leur manière et nous renvoient des interrogations qui sont celles profondes de la société auxquelles les syndicalistes doivent se laisser réinterroger. Ça va ou il faut que je parle plus fort? Plus fort. Bon. Ça aussi, je sais faire. Alors, j'ai dit que je vais essayer d'être très court. C'est très compliqué quand même de tirer des enseignements à chaud d'une histoire qui est à peine finie. Donc, il faut être modeste. Peut-être que je vais dire un certain nombre de choses qui seront dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans 2 ans des âneries. Quels sont les grands traits de ce qui s'est passé? Premier point, je pense qu'on a connu, avec cette réforme des retraites, un conflit long et inédit dans l'histoire sociale française. Assez inédit. Alors, en quoi est-il inédit? Entre le 24 juin et le 28 octobre, il y a dû y avoir 8 ou 9 journées nationales, alternant des jours de semaine et des samedis, rassemblant à chaque fois des millions de salariés, même si les chiffres souvent balancés par les organisations syndicales sont un peu exagérés, mais il y avait beaucoup de monde. Et un mouvement qui a connu un soutien populaire sans faille, puisque l'opinion publique était globalement d'accord avec ce que nous avons fait, autour de 70%. Et tout ça dans une assez bonne unité syndicale. Je pense que, vu de loin, ça avait en tout cas l'air très uni. Donc je pense que c'est exceptionnel, que notre pays n'a pas connu ça de toute son histoire sociale, de ce que je connaisse de l'histoire sociale de ce pays. Une autre caractéristique, c'est que ce mouvement fort, puissant, a été globalement maîtrisé, n'a pas été un mouvement bloquant, un mouvement d'affrontement violent. Il n'y a pas eu de recours à la grève générale. J'ai envie de dire, c'était une volonté très forte des principales organisations de l'intersyndicale d'avoir la maîtrise de ce mouvement, de ne pas déraper sur le terrain politique et de ne pas déraper sur l'affrontement et sur la violence, même si de temps en temps ça a été un peu compliqué. Et c'est un des paradoxes de cette affaire-là, c'est que un certain nombre de commentaires ont tourné autour d'un mouvement social inédit, d'une capacité du mouvement social à faire connexion avec son histoire classique, etc., etc. Alors que je pense que ce mouvement rompt largement avec l'histoire classique sociale. Et que le mythe de l'unité demeure, le mythe du mouvement social demeure, mais d'une certaine manière, le mythe de la grève générale est derrière nous, peut-être temporairement, mais et il y a eu un certain nombre de commentateurs qui disaient s'il n'y a pas de grève générale, il n'y a pas d'action possible. Je crois que c'est une erreur totale. Alors, quels sont, de mon point de vue, les trois ou quatre éléments majeurs qui expliquent cette situation-là? Parce que s'il y a situation inédite, il y a des facteurs explicatifs. J'en vois trois ou quatre. Le premier point évident et qui distingue cette période-là des autres, c'est que le gouvernement proposait une réforme des retraites et que la réforme des retraites, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Ça touche tous ceux qui vont y être. Ça touche pour partie ceux qui y sont et ça touche ceux qui peut-être un jour y seront. Même si on a dit beaucoup de conneries sur la motivation de la jeunesse par rapport à ça. Je crois pas du tout, pour faire court, je crois pas du tout que les jeunes lycéens étaient inquiets de la réforme des retraites. Je crois que la réforme des retraites a mis en évidence et a été pour eux l'occasion de mettre en évidence leur inquiétude pour leur avenir, ce qui n'est pas la même chose. On a un dossier qui touche tout le monde. Deux, dans un climat difficile depuis longtemps, plus difficile depuis la fin 2008 avec la crise financière qu'on a connue, j'espère que c'est pas le mien, avec la crise financière qu'on a connue et qui n'est pas terminée, et un sentiment, t'auras en raison après, c'est un vrai débat, mais un sentiment, de mon point de vue, a raison que nous étions dans une société profondément injuste et que un certain nombre d'actes consacraient ces injustices. On était en plein dans le débat Woerth-Bettencourt, etc., etc. Et la réforme des retraites proposée par le gouvernement, de mon point de vue, consacre des injustices fortes ou accroît des injustices fortes. Et c'est pas très étonnant que c'était un mélange d'étonnant, puisque nos systèmes de retraite nationaux sont des systèmes de retraite par répartition, basés sur la solidarité, une double solidarité, une solidarité entre les actifs et les retraités, mais au sein des actifs, une forme de solidarité entre eux, puisque il n'y a pas d'adéquation directe entre l'effort demandé aux uns et la retraite payée à d'autres. Et ce système de retraite par répartition remis en débat réinterroge toutes les solidarités et donc met la question de l'équité, des égalités ou des inégalités au cœur du débat. Se rajoute à ça un dossier traité dans l'absence de dialogue et dans une crise profonde des acteurs. Le point qui, moi, me paraît le plus important, c'est que on a débattu de cette réforme des retraites en aveugle, dans un domaine cloisonné, comme si la question des retraites était l'alpha et l'oméga de la vie sociale et économique du pays. Je pense que les principaux partis politiques ont failli complètement sur la nature du débat qu'il fallait mener. Quand on nous dit que cette réforme règle le problème des retraites dorénavant pour tous ceux qui seront centenaires un jour, c'est une connerie monumentale. Quand les socialistes proposent une réforme qui n'est pas réellement financée ou qui est financée à condition qu'on ne regarde pas les autres problèmes à financer, on laisse croire qu'on peut régler le problème des retraites en trouvant d'autres sources de financement face au défi qui nous est posé par plein de choses et notamment par la démographie. Donc je pense qu'il y a un problème profond de l'attitude du politique renforcé par le choix d'un président de la République qui dit « je fais de la réforme des retraites l'alpha et l'oméga de la réforme et j'en fais un marqueur politique ». Parce que ce faisant, le politique prend en otage la démocratie sociale et la relation que le pouvoir politique peut avoir avec les partenaires sociaux sur un enjeu aussi important de réforme. À partir de là, à cause de là, ou en même temps, parce qu'on est dans une mécanique où tout s'enchaîne, on est pour partie dans un jeu de rôle. On est pour partie dans un jeu de rôle. Je suis en désaccord avec M. Soubi qui dit hier, c'est normal qu'une réforme, ça mène des manifestations, puis il faut laisser les manifestations passer, puis après on fait les réformes. Je crois pas au rituel. Mais je suis bien obligé de reconnaître, je reconnais volontiers, que le gouvernement a eu face à lui une intersyndicale qui a davantage été un front du refus qu'un ensemble d'organisations capables de porter ensemble des propositions concrètes et atteignables. Et par exemple, la CFDT considère toujours que dans l'ensemble des dispositifs de cette réforme, la mesure la plus injuste, c'est le passage de 65 à 67 ans pour pouvoir toucher une retraite pleine et entière. Et je pense que si le syndicalisme avait été capable de dire « cette question-là est une question qui se distingue des autres et on en fait un point d'honneur », peut-être que les choses auraient été différentes. Toujours est-il qu'on s'est retrouvé face à un pouvoir qui considérait normal qu'il y ait des manifestations et qui n'a pas engagé le dialogue, et un mouvement syndical qui était guère capable de faire plus que de dénoncer la situation dans laquelle on était. Alors, dernier point, qui est une caractéristique de la société française, le conflit des retraites se déroule sur une mésentente croissante entre les salariés et le travail, qui amène beaucoup de gens, dans le secteur public comme dans le secteur privé, à considérer que ils aiment bien leur travail, ils aiment bien leur métier, ils aiment bien leur boîte, mais que les conditions globales qui leur sont faites pour remplir leur métier ne sont pas réunies, et ils ont une grande envie de pouvoir partir du travail le plus vite possible. Alors comme les grandes entreprises les aident à partir le plus vite possible, finalement tout va bien dans le meilleur des mondes, et on a vu qu'à peine la loi votée, ça continuait comme avant. Voilà. On est dans cette mécanique-là, bon, qui vient de loin. Alors, et j'arrête parce que j'en suis à 10 minutes, je finis là-dessus, j'avais dit que j'allais être court. Donc, on en est aujourd'hui avec une réforme votée, légitime sur le plan politique, et qui prévoit un nouveau rendez-vous en 2013. Donc, comme je pense que cette réforme n'est pas faite et est à faire, tout l'enjeu est de réussir, à partir de 2013, à avoir un dialogue de qualité qui permette de répondre aux enjeux que cette réforme n'a pas traités. Et pour finir, je vais pointer ce qui me semble être, moi, les 3 ou 4 défis incontournables du futur immédiat. On est dans un pays anxiogène, qui connaît des vraies difficultés, dans une Europe qui connaît des vraies difficultés, et il n'y a quasiment pas de responsables politiques, de responsables nationaux, de temps consacré sur les médias pour tenter de décrire la situation assez difficile devant laquelle on est. Et il y a encore moins de perspectives de donner aux gens pour dire on est dans une situation difficile, mais ce n'est pas une situation désespérée. Et l'histoire de demain sera celle qu'on écrira ensemble. Cette histoire, elle doit obligatoirement répondre au défi de l'emploi qui est devant nous, notamment de l'emploi des jeunes. Ça me paraît être la priorité. On doit... Alors, je ne rentre pas dans les détails, hein, c'est un sujet vaste. Et notre pays a l'obligation de repenser ses systèmes sociaux, de protection sociale, de retraite, de protection de la santé, de la dépendance, etc., comme il doit repenser la question de la formation, la question de l'école, inadaptée au monde dans lequel on vit. Et je finis en disant que la réforme des retraites est une réforme ratée, le dialogue social n'a pas eu lieu, la confrontation entre la démocratie sociale et la démocratie politique n'a pas eu lieu, et je ne vois pas d'autres espaces sérieux pour construire les réformes dont le pays et les citoyens et les salariés ont besoin, si on ne trouve pas l'espace de dialogue qui permet de se mettre d'accord sur l'état des lieux, de confronter très sérieusement, y compris en s'empoignant violemment sur les solutions à mettre en œuvre, de débattre avec les salariés pour parvenir à des compromis très compliqués, compris par les gens et accepté par une majeure partie d'entre eux, parce que ça fait sens pour l'avenir.
Merci beaucoup, Monsieur Grignard. On aura l'occasion de continuer avec vous la réflexion. Merci de votre lecture de cette crise. Voilà, cette crise que vous nous avez dite comme étant vraiment un conflit inédit. Inédit en raison du soutien populaire, du fait que ce fut un mouvement maîtrisé qui n'a pas été bloquant, qui n'a pas dérapé, avec ce mythe de la grève générale qui est derrière nous. Et puis, dans un contexte bien particulier, pourquoi les choses se sont passées comme cela, vous nous l'avez rappelé, une réforme qui touche tout le monde, un sentiment d'une société injuste, un dossier traité dans l'absence de dialogue, vous avez beaucoup insisté sur ce point, chacun se situant finalement dans une sorte de jeu de rôle et une mésentente croissante entre les gens et le travail. Alors le défi incontournable, nous l'avons bien entendu à la fin de votre propos, c'est dans cette situation anxiogène de notre pays, finalement on ne décrit pas assez la situation, on ne s'explique pas assez, on n'ouvre pas de perspective et il n'y a pas véritablement de lieu de débat. Or c'est pourtant en remettant les choses dans un véritable dialogue qu'on pourra parvenir à des compromis compliqués. Sans plus attendre, je laisse la parole à Geoffroy Roux de Bézieux pour avoir sa propre relecture de ces événements.
Je ne sais pas ce que je dois appuyer. Voilà. Bon, bonsoir à tous. Merci également de m'avoir invité. Alors, contrairement à Marcel Grignard, moi j'ai peut-être plus l'habitude d'intervenir dans ce public, bien que je ne sois pas diplômé du Centre Sèvres. Peut-être un bémol pour dire que j'interviens ce soir... dans un cadre d'expression personnelle, donc je ne représente pas officiellement le MEDEF. Je suis plutôt là comme chef d'entreprise, patron citoyen un peu engagé dans un certain nombre d'organisations, côté d'ailleurs de la CDT, et puis dans ce cadre-là, comme catholique. Alors... Et puis, ici, dernière petite précision, Marcelin était le chef de file de la CDT sur les retraites, je ne l'étais pas, et donc c'est un sujet que je connais beaucoup moins bien techniquement, donc j'espère qu'il ne m'entraînera pas.
Non, Geoffroy, j'étais pas chef de file sur les. Moi, je connais pas le dossier retraite, c'était pas moi.
Je pensais que vous connaissiez mieux que moi. Non. C'était ni vous ni moi, donc tout va bien.
J'avais une tâche subalterne, c'était de piloter la CFDT dans les intersyndicales, de décider des jours de grève.
En tout cas, vous le connaissez plus que nous, je crois, et plus que moi. Donc, on continue.
Alors, le thème, c'était après le débat sur les retraites, où en est la France, il y avait une sous-question qui est qu'est-ce que cette crise nous dit de l'état de la société française. Donc c'est un peu ça, celle-là que j'ai essayé de traiter en quelques mots. Bon, moi, mon sentiment, que c'est ce débat des retraites et l'indéniable succès populaire, au-delà des comptages de manifestants dans les sondages qu'a eu le mouvement social, révèle une énorme crise de confiance des Français dans leur destin commun. Il y a un chiffre que vous connaissez peut-être, moi, qui m'a beaucoup frappé dans un sondage récent. 56% des Français craignent de devenir SDF un jour. Évidemment, les chances sont très, 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 très faibles. Les cas de gens qui brusquement passent du statut de salarié à celui d'SDF sont sous compte sur, peut-être pas les doigts de la main, mais sur... Par peut-être centaines, mais il y a cette crainte diffuse. Vous parliez de société anxiogène. Je ferai une petite précision sémantique, mais je crois qu'on veut dire la même chose. C'est-à-dire, je pense que la société est très anxieuse et que c'est le monde moderne, et en particulier le capitalisme des dernières années, qui rend la France très, très anxieuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Donc, je vais essayer, moi, de parler plus de la société française que du débat sur les retraites. Bon, d'abord, il y a eu la crise depuis septembre 2008. Cette crise a été très violente, elle a été beaucoup plus médiatisée, elle a été beaucoup plus vite mondialisée. Mais en réalité, elle n'est qu'une des nombreuses crises du système capitaliste depuis les tulipes à Amsterdam en 1657. Je ne sais pas si vous connaissez cette crise sur le bulbe de tulipes. La spéculation, ce que Keynes appelait l'euphorie irrationnelle, l'exubérance irrationnelle, est consubstantiel du capitalisme. C'est un système très dur, c'est un système qui crée beaucoup de richesses, mais c'est un système qui fonctionne par crise. Et c'est peut-être terrifiant à dire, mais ça n'est pas la dernière. C'est-à-dire que je pense qu'on verra d'autres bulles, j'espère moins graves, certainement pas au même endroit, parce que les gouvernements appliqueront un certain nombre de régulations, mais il y aura d'autres bulles, il y aura d'autres crises. Peut-être que la spéculation autour du solaire ou de l'éolien est la prochaine bulle qui éclatera après l'immobilier dans quelques années. Ça a été un facteur anxiogène pour les Français, mais je pense que le malaise est beaucoup plus profond que ça, et que ça n'a été qu'un facteur accélérateur, révélateur en quelque sorte de leur inquiétude. Cette inquiétude, moi je la lis sur deux thèmes. Le premier, c'est que le capitalisme mondialisé depuis 10 ans, finalement, et c'est un espèce de gigantesque face-à-face entre d'un côté le modèle nord-américain d'entrepreneur, qui mise sur l'individu, sur l'entrepreneur schumpeterien, et qui crée en permanence d'innovation. Et puis en face, le capitalisme asiatique, essentiellement chinois, qui est un capitalisme d'État, assez peu libéral au fond, et qui fait ses 30 glorieuses, c'est-à-dire que c'est une croissance de rattrapage, formidable croissance, 6, 7, 8% par an, mais qui est un petit peu l'équivalent de celle qu'on avait, nous, dans les années 60 ou 70. Et au milieu, les Européens, et en particulier les Français, se disent, ben nous, on n'a plus qu'à compter les points, en quelque sorte, on n'a plus qu'à assister à ce formidable combat de géants dans lequel on n'a plus notre place. Le meilleur symbole, de cette économie-là, c'est l'iPhone. Alors, je reviens sur des terres qui me sont connues. L'iPhone, toute l'intelligence, toute la conception, tout le marketing, tout le design est fait aux États-Unis. Toute la fabrication est faite en Asie. Et l'Europe n'a plus qu'à acheter des iPhones. Et alors, petite anecdote au passé, la France est le pays qui achète le plus d'iPhone au monde pour nourrir, entre guillemets, les ingénieurs et les marketeurs américains et les usines chinoises. Alors, c'est très symbolique, évidemment, l'économie se résume pas à un téléphone portable. Mais je pense que les Français ont compris, on dit qu'ils sont nuls en économie, moi je crois au contraire tout à fait l'inverse, je pense qu'ils ont compris que aujourd'hui, dans le modèle qui est le nôtre, qui est un modèle social-démocrate hérité de la guerre, on n'est plus dans cette pompicière. En fond, ils n'ont pas envie de participer au match parce qu'ils sont sûrs de le perdre, quelque part. Et donc ça donne des réflexes de peur, d'angoisse, qui, quelquefois, quand ils sont exploités de manière démagogique par les politiques, donnent à l'extrême gauche une forme de démagogie trotskiste et de l'autre à l'extrême droite une xénophobie exacerbée, mais au fond c'est les deux mêmes versants de cette peur du monde moderne. Et puis il y a un deuxième élément qui est très fort, c'est que le capitalisme est un système injuste, dur, mais qui crée des richesses et qui permet à chacun de vivre son propre destin. Et donc quand vous étiez fils d'ouvrier dans les années des Trente Glorieuses, quand vous étiez même immigré, vous aviez peut-être pas une certitude, mais une chance, une forme d'équité de grimper ce qu'on appelle l'ascenseur social. Je préfère parler d'escalier social parce que l'ascenseur peut vous emmener au septième étage directement alors que l'escalier se gravit marche à marche, mais l'idée est la même. C'est-à-dire que quand il y avait de la croissance à partager, la société n'était pas stratifiée en strates. Aujourd'hui, tous les indicateurs le montrent, dans le monde européen, en particulier en France, on peut discuter des inégalités et des égalités, mais au total, le vrai sujet, c'est que votre chance, ou la chance pour vos enfants de changer de décile de revenus, de catégorie sociale, s'est considérablement affaiblie. Le symbole le plus criant de tout ça se trouve dans les grandes écoles, la proportion de fils d'ouvriers à Polytechnique est passé de peu près 30% à moins de 5%. Alors, le poids des ouvriers dans la population française a diminué en même temps. Mais en 30 ans, même si Polytechnique n'est pas à lui seul, on va dire, l'alpha et l'oméga de la réussite, c'est plus un symbole qu'une anecdote, en 30 ans, la machine à progresser dans la société s'est brisée. Et donc, le rêve, entre guillemets, de tout à chacun, qui est par essence, par consumptionnellement, le fait d'espérer avoir un avenir meilleur et de donner un avenir meilleur à ses enfants, c'est profondément brisé. C'est particulièrement vrai en France. Pourquoi ? Parce que on est un paradoxe. Hein, on est le pays de l'OCDE où les inégalités sont les moins fortes. Alors, on pourra débattre de ça, mais si on regarde les 10% les plus pauvres, les 10% les plus riches, ce qu'on appelle le coefficient de Gini, c'est-à-dire l'écart est le moins élevé. Aux États-Unis, il est beaucoup plus élevé, mais c'est aussi celui où la mobilité sociale est le moins forte. Les États-Unis est un modèle qu'on peut critiquer par beaucoup d'égards, mais le chauffeur de taxi haïtien qui débarque à 20 ans, ou du moins l'haïtien, pardon, qui débarque à 20 ans sans papier à New York, a une chance de devenir chauffeur de taxi à 10 $ de l'heure, et une toute petite chance que ses enfants fassent fortune. Quand vous regardez tous les grands patrons américains, ceux qui ont créé les Google, les Dell, etc., vous avez beaucoup, beaucoup de gens qui sont immigrés, et en tout cas de milieux très modestes. Un tiers, j'ai une statistique qui m'a toujours fasciné, un tiers des entreprises américaines sont créées par des gens qui ne sont pas nés sur le sol des États-Unis. C'est d'ailleurs une des forces du modèle américain. C'est une immigration qui n'est pas une immigration, qui est vécue comme un poids, mais au contraire qui est vécue comme un moteur. Voilà, donc au-delà de tous les débats techniques sur les retraites, moi j'ai le sentiment que ce débat et les inquiétudes que ça suscite révèlent au fond cette inquiétude de l'avenir, ce rejet un peu du nouveau monde qui s'annonce et où on a l'impression qu'on est perdant. Alors, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très juste, on donne pas assez de raisons aux Français d'espérer. Il y a quand même des raisons d'espérer. Parce que moi je vois autour de moi une autre France, celle qui croit encore en l'avenir, celle qui a envie de se battre, celle qui se dit bah tout n'est pas foutu, qui comme les jeunes chinois au fond se dit ben voilà, moi mon avenir m'appartient, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, j'ai envie de me... Alors moi je suis dans un milieu high-tech, j'ai un fonds d'investissement qui finance des start-up, c'est vrai que je vois beaucoup de gens, mais évidemment sur le plan quantitatif ils sont peu nombreux. J'allais dire qu'ils ont encore la pêche et qui croient dans ce pays, qui sont prêts à entreprendre. Le succès des auto-entrepreneurs, 500 000 personnes qui se sont mis à leur compte. Alors, il y a des critiques sur certains détournements, mais ça montre quand même une envie d'entreprendre. Le mouvement associatif est extrêmement fort en France. On est champion du monde de la création d'associations par an. On crée 60 000 associations par an. Qu'est-ce que c'est que créer une association sinon entreprendre d'une autre manière? Donc, il y a des raisons d'espérer. Et je fais une petite parenthèse pour dire que j'ai fait un débat la semaine dernière avec Yves Cochet, qui est le député vert, qui est un apôtre de la décroissance. Lui, sa théorie, c'est la planète a des ressources finies, donc on peut pas continuer comme ça. Donc, il faut dès maintenant commencer à décroître dans nos comportements, etc., etc. Je trouve ce discours absolument terrifiant parce que là, on va vraiment désespérer les Européens. On va désespérer les Européens d'un côté, et puis surtout le reste du monde qui a envie de rattraper notre niveau de vie et qui n'acceptera jamais qu'on leur dise ben on fige les choses. Vous, les Européens, vous êtes à ce niveau-là, puis vous, les Chinois, vous, les Africains, vous restez là où vous en êtes. La croissance n'est pas un choix. Je veux dire, je pense qu'on n'a pas le choix d'autre chose que de trouver les ressources de notre croissance. Alors, vous posiez la question de comment réformer et faire avancer ce pays. Bon, moi, je suis pas un politique, hein, donc j'aurais pas la prétention de donner le son à qui que ce soit, mais je pense que il y a des éléments dynamiques dans ce pays. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ont envie d'entreprendre. Et plutôt que d'opposer ceux qui entreprennent, ceux qui se bougent, et puis ceux qui ont peur, je crois qu'il faut essayer, évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire, d'entraîner, enfin de s'appuyer sur cette partie dynamique de la population, qui ne sont pas juste les chefs d'entreprise, hein, qui sont toute une série de gens, y compris dans le milieu associatif, qui prennent des initiatives pour entraîner tous les autres, pour entraîner ceux qui ont peur de perdre le match. Alors je ne sais pas donner de pourcentage, mais je pense qu'il y a une partie significative de cette population qui croit encore en son avenir. Et puis dernière question qui était posée, le dialogue social. Alors, je suis un novice moi dans le dialogue social, hein, puisque j'ai rejoint le monde paritaire il y a 3 ans, donc je suis peut-être pas le mieux placé pour vous dire quoi en penser. D'abord, je dirais qu'il n'est pas aussi pauvre qu'on le dit partout. Hein, vous avez une quantité de bouquins qui expliquent que le nord de l'Europe est le paradis du dialogue social et que nous, on est des mauvais dans ce domaine-là. D'abord, au niveau des entreprises, ils se signent plusieurs milliers d'accords par an au niveau des entreprises et des branches, qui sont pas forcément médiatisés, y compris par des syndicats réputés peut-être moins réformistes que la CFDT. Et puis, ils se signent des accords au niveau national. Par exemple, la rupture conventionnelle. Marcel Gagnon a souvenir que j'étais venu dans son bureau il y a quelques années, quand j'étais encore chez Croissance Plus, de manière informelle, parler de flexibilité. Voilà, il y a des choses qui se font. Simplement, il faut comprendre quelque chose, c'est que le dialogue se heurte à mon avis, 2 obstacles. Le premier, c'est le temps. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, en arrivant d'un monde où le temps n'a pas tout à fait le même chronomètre, c'est que ça prend beaucoup de temps. On n'avance pas au même rythme. Parce qu'il faut se mettre d'accord, parce qu'il y a des tendances syndicales historiquement différentes, que maintenant il commence à y avoir des tendances patronales un peu différentes, qu'on est donc 6, 7, 8 autour de la table, que tout le monde doit s'exprimer. Et donc tout prend beaucoup de temps, y compris d'ailleurs les réunions et les conseils d'administration. Et j'ai dû apprendre un peu la patience à ce niveau-là. On apprend à son corps défendant, mais on apprend. Et donc le temps du politique et le temps de la démocratie sociale ne sont pas les mêmes, quel que soit le politique, hein, d'ailleurs. Alors, il se trouve qu'on a un raccourcissement du temps politique avec le quinquennat, avec un président qui a envie de faire bouger les choses. On a aussi, et là, on pourra débattre sur les retraites, mais il y a aussi une obligation d'avancer vite, parce qu'il y a des sujets qui n'attendent pas. Et donc, c'est cette contradiction entre les deux temps qui font que, souvent, on a des problèmes. Il y a encore des exemples récents. Les partenaires sociaux annoncent qu'ils vont faire une réflexion sur l'emploi des jeunes, et puis le ministre annonce qu'il va prendre des mesures en janvier. Bon, on voit que les deux agendas ne sont pas les mêmes. Le ministre, il vient d'arriver, il sait qu'il a un CDD 18 mois, ou je n'ai pas compté, mais à peu près. Il faut qu'il annonce un certain nombre de choses. Et nous, alors là, je parle plus au niveau des partenaires sociaux du MEDEF et des organisations syndicales, il faut qu'on se mette autour de la table, et puis on est, nos patrons là le sont là, les organisations syndicales sont là, il faut qu'on essaye de faire le chemin. Et ce chemin-là, on le fera pas en 2 mois, y compris la Saint-Sylvestre au milieu. Il y en a une autre que j'aime plus de temps à comprendre, c'est l'espèce de tradition colbertiste qu'il y a dans ce pays. Au fond, la question, c'est qui est le dépositaire de l'intérêt général? Et quand on rentre dans le monde de la démocratie sociale, donc on a en face de nous une quantité industrielle de jeunes et brillants énarques des cabinets, comment dire ça sans être trop langue de bois ni trop... disons que on vous fait assez vite comprendre que ça peut pas être vous le patron, ou d'ailleurs je pense, enfin je sais pas si Marcel Gagnon sera d'accord avec moi, vous le syndicaliste qui êtes le dépositaire de l'intérêt général. On vous écoute patiemment parce que vous avez sûrement des choses à dire et que vous avez un certain pouvoir d'influence. Mais au fond, on a une culture de « c'est l'État qui sait ». On en est d'ailleurs, nous les patrons, en partie responsables, parce que quand ça va mal, on a tendance à se reposer sur l'État. parce que ça nous arrange de temps en temps, très souvent. Et je pense que le défaut de ce pays, il est là. C'est un manque d'autonomie, un manque finalement de comportement adulte de la société, ce qu'on appelle la société civile, mais que moi je traduis par les partenaires sociaux, les associations, etc. Et c'est très difficile, du coup, quand on abandonne des pans entiers de réforme à l'État, de reprendre le manche. C'est une tradition qui est très ancienne. Hein. Quand je parle de Colbertisme, c'est pas par hasard. Ça ne date pas de 45, même si 45 a peut-être joué un rôle là-dessus. Donc il y a un vrai sujet, et d'ailleurs sur lequel peut-être au sein du patronat on n'est pas tous d'accord, sur comment ce que, dans le cadre en tout cas des sujets sociaux, on reprend la main en étant efficace, en étant aussi efficace que l'État. Moi je crois beaucoup au principe de subsidiarité, je ne crois pas que tout doit être décidé d'en haut. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est une forme de cohérence intellectuelle. Quand on est libéral comme moi et qu'on croit à l'initiative individuelle versus le système, quand on croit à l'individu versus la bureaucratie, il faut pouvoir l'appliquer dans tous les domaines et pas se reposer sur l'État lâchement quand on en a besoin, entre guillemets. Voilà. Donc, voilà les deux obstacles, je pense, au Dioxide, qui ne datent pas de la réforme des retraites, puisque pour moi, c'est quelque chose d'assez ancien. Je dis tout ça avec une forme de modestie, puisque je n'ai pas l'expérience de mon voisin sur le sujet, donc je serais ravi d'entendre son commentaire. Puis un dernier point que je voudrais ajouter, là, sur la mésentente avec le travail. Parce que là, je ne suis pas d'accord. Je peux pas croire que l'opposition de l'opinion à la réforme des traites soit liée à ça. Alors, c'est à la fois une conviction et un souhait. Et je n'ai pas de certitude. Que la réforme soit perçue comme injuste, on peut débattre sur le fond, mais certainement, puisque sinon il n'y a pas eu cette opposition. Moi, tout ce que j'ai compris des enquêtes d'opinion, c'est elle est injuste, elle est inévitable, mais comme elle est injuste, on est contre. Si elle était juste, on serait pour. Je ne sais pas si c'est exactement ça qu'il faut lire, mais par contre, je crois que la majorité des salariés sont heureux dans leur travail, toutes les enquêtes le montrent, que donc on leur donne du sens à ce qu'ils font, quelle que soit leur qualification et leur poste. C'est une forme d'épanouissement. Moi, je ne crois pas du tout à l'asservissement. Enfin, le travail forme d'asservissement. Je crois au contraire que le travail, c'est une forme de liberté et d'épanouissement. Et que, à des exceptions près, je ne conteste pas que chez les cadres, il y a une perte de sens, que dans certaines entreprises, dans les télécoms en particulier, il y a un certain nombre de choses qui ont dérapé. Mais d'une manière générale, si tant est qu'on peut généraliser, je ne crois pas que les Français soient fâchés avec le travail, qu'ils soient inquiets pour leur avenir, l'avenir de l'entreprise, l'avenir de leur métier, oui. Mais qu'ils soient fâchés avec leur travail quotidien, à quelques exceptions près, je crois pas et je l'espère pas. Voilà, je vais terminer là-dessus. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Roude-Bézieux. C'est vrai que nous sommes bien avec deux regards différents, et c'est ça qui est intéressant. Vous avez insisté pour nous dire combien ce débat des retraites révèle une énorme crise de confiance des Français, une crise de confiance qui vient de plus loin, qui vient de la crise financière, bien évidemment, aussi, une de ces nombreuses crises du capitalisme, et vous en annoncez d'autres. Ce n'est pas fini. Un capitalisme, vous l'avez dit, qui est quand même dur et injuste, même si ce n'est pas que ça, et vous insistez aussi sur ces points positifs. Donc, dans cette situation d'angoisse dans laquelle se trouvent les Français, eh bien, ils ont l'impression un petit peu de se retrouver à compter les points entre un modèle nord-américain et un modèle chinois. Et puis, il y a cette angoisse devant une réussite sociale qui semble, vous l'avez dit, beaucoup plus difficile que par le passé. Alors, quand même, vous soulevez un certain nombre de raisons d'espérer. Il y a d'abord, et on vous retrouve bien derrière toutes ces personnes qui veulent se battre, qui croient en ce pays, il y a du dynamisme, il y a des ressources dans ce pays, et qu'il s'agit de s'appuyer un peu sur la partie dynamique de notre société pour entraîner les autres. Et puis, vous dites aussi que le dialogue social n'est pas aussi pauvre, peut-être qu'on le dit trop souvent, même si vous voyez deux obstacles, le manque de temps, et je trouve que vous avez dit quelque chose de très important, c'est que le temps du politique et de la démocratie sociale ne sont pas les mêmes. Ce qui est évidemment un point sur lequel peut-être on pourra revenir. Et puis cette tradition colbertiste de notre pays, finalement, qu'est-ce qui est dépositaire de l'intérêt général? Comment les acteurs sociaux reprennent la main face à l'État? Et on peut peut-être s'interroger, voir si tout le monde a bien joué son rôle, notamment lors de la dernière crise. Et puis, et là on voit bien apparaître aussi une différence d'analyse avec Monsieur Grignard, eh bien c'est peut-être la manière de voir le rapport au travail. Finalement, selon vous, les Français ne sont pas fâchés avec leur travail quotidien, même s'ils peuvent être évidemment dans l'inquiétude face à l'avenir de ce travail. Eh bien écoutez, je crois qu'il y a là matière à débattre, sûrement débattre entre vous, mais aussi débattre avec la salle. C'est rare que nos intervenants tiennent aussi bien que cela, que ce soir, leur temps de parole, ce qui nous permet d'avoir un long temps de débat ce soir, et c'est très bien ainsi. Alors nous allons faire passer le micro, on va recueillir peut-être quelques convictions et questions que nous donnerons à nos intervenants de ce soir. Voilà, n'hésitez pas à lever la main. Voilà, on va en recueillir quelques-unes. Vous avez le micro, allons-y.
Oui.
Voilà, parlez bien, bien fort dedans. Il est ouvert.
Il est ouvert, vous m'entendez là ?
Voilà.
Bon, je voulais d'abord, je remarque qu'il y a beaucoup de têtes grises et blanches ce soir, et j'en fais partie. Ça veut dire que nous allons parler de l'avenir de la France, et que les représentants de la France de demain, ce sont nos enfants, nos petits-enfants, voire nos arrière-petits-enfants. Et je félicite tous les grands-parents qui sont là et les parents qui sont là parce que grâce à eux, ils transmettront la bonne nouvelle à nos enfants pour l'avenir. Je voulais parler de quelques chiffres parce que c'est important de fixer un peu les choses à partir de bases mathématiques. Vous savez qu'en France, on a 500 000 élus depuis la petite commune de fin fond de campagne jusqu'au Sénat et à la Chambre des députés, 577 députés, 350 sénateurs, 400 délégués au Conseil économique et social et de l'environnement, des 60 et quelques députés européens, etc. Bon, tout ça, ça fait beaucoup, c'est la démocratie, mais c'est une démocratie qui coûte cher. Bon, parce que tous ces gens-là, pour travailler, ils ont besoin de collaborateurs, etc., qu'il faut payer. Qui paye le contribuable. Deuxième considération, en France, on ne travaille pas beaucoup. 35 heures par semaine, nous sommes les seuls. 5 à 6 semaines de congés payés. 11 jours fériés. 11 jours au jeune papa qui vient d'avoir un bébé. Les ponts et les certificats de complaisance des médecins, etc., quand il y en a, mais c'est vrai, tout ça fait qu'on ne travaille pas beaucoup dans notre pays. Alors ma question, c'est de savoir, à partir de ces données chiffrées, peut-on prévoir pour la France, pour notre pays, de sortir de ces difficultés, de voir la réalité en face, de rembourser sa dette, de diminuer l'endettement et de prévoir pour nos enfants un avenir un peu plus souriant. Merci.
Merci, Monsieur Amaté. Alors, derrière, je crois qu'il y avait juste Monsieur Fossurier. Voilà.
Oui, bonsoir. J'avais deux questions, en réalité. Vous avez évoqué, avant qu'on en parle de retraite, on a un problème de responsabilité collective. Mais il y a une autre facette que vous n'avez pas abordée, qui est la question de la responsabilité individuelle. Sur la responsabilité collective, Monsieur, effectivement, vous dites, Monsieur Grignard, qu'on est dans une société injuste. Je crois effectivement que c'est injuste, mais est-ce qu'on va au bout de l'exercice ? C'est-à-dire, derrière l'injustice, il y a en France notamment de très importants corporatismes qui font un axe assez complémentaire et qui fragilisent, à mon avis, la société française avec le sujet qu'évoquait M. Roux-de-Bézieux sur la question d'un État qui, colbertiste, centralisateur, qui décide de l'intérêt général au nom de trop. Quand on croise le corporatisme avec cette vision très centralisatrice de l'État, je pense effectivement que c'est une difficulté d'avoir un dialogue social qui amène à traiter de façon, je dirais, complète la question de l'injustice de la société, auquel on pourrait rajouter d'ailleurs la difficulté pour les jeunes d'entrer sur le marché du travail, qui est un point qui est apparu en marge ou en parallèle de ce débat sur les retraites. Ça, c'est ma première question, c'est comment vous voyez la manière de traiter réellement cette question des corporatismes et de l'injustice, finalement, de la société française sur ce point. L'autre point, c'est celui de la responsabilité individuelle. Sur la responsabilité individuelle, un point qui m'a étonné, c'est qu'au fond, on a dit tout le monde doit partir à 65, 67 ans, j'ai pas encore les cheveux gris, au moins, d'ailleurs, dans mes équipes, je vois des gens qui, ce qui m'a étonné un peu, n'étaient pas du tout en ligne avec ce que disait, paraît-il, 70% de la société française. Les gens qui travaillent avec moi, ont envie de travailler, ne pensent pas à partir à 60 ans. Mais pourquoi n'a-t-on pas envisagé, dans la discussion qui a eu lieu, au fond, si quelqu'un veut partir à 60 ans, qu'il parte à 60 ans, mais pourquoi n'y a-t-il pas un ticket modérateur ? Au fond, c'est aux personnes de choisir librement si elles veulent partir à 60 ans avec une retraite plus faible, ou à 62 ans avec une retraite plus importante, ou à 65 ans. C'est un peu peut-être ce qu'il y a derrière, d'une certaine manière. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas été au bout de l'exercice, et il me semble que la CFDT a une réflexion sur le sujet.
Merci. On va prendre une troisième intervention qui est en haut, à peu près au milieu. Voilà.
Je rebondis sur la question de la couleur des cheveux. Pour témoigner, alors, d'une part, j'ai été personnellement particulièrement irrité par les discours de solidarité intergénérationnelle que j'ai entendus à travers les médias, lorsque je voyais effectivement la couleur des cheveux des gens qui parlaient et qui, en substance, sont des personnes qui ont fait leur carrière sans assumer la charge de financer les retraites de la génération précédente et en vivant à crédit de ma génération en l'occurrence pour son propre compte. Donc ça soulève, je précise que j'ai 32 ans, ce qui veut dire que je n'ai jamais connu de toute mon existence un budget de l'État voté et bouclé en équilibre. Voilà. C'est une réalité. Alors ça soulève une question, deux questions. Est-ce que vous sentez au niveau syndical, notamment, une forme de clivage générationnel qui transcende justement les oppositions un peu traditionnelles entre guillemets, syndicats, patronat, monde de la société civile et puis gouvernement politique. C'est une question que je me pose. Et deuxième question, sur le mot du dialogue social. Vous avez, monsieur, très justement posé la question de il n'y a pas d'espace pour avoir ce dialogue. Peut-on, dans notre démocratie, enfin rêver d'un dialogue qui se passe ailleurs que dans la rue, si tant est que la rue soit un dialogue? Et quelle est la place du monsieur, vous avez employé le mot, du comité socio-économique et environnemental. Voilà, conseil économique et social, merci. Vous voyez à quel point je maîtrise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Est-ce que ce lieu-là ne peut pas être un lieu de vrai dialogue et pour aller dans un minimum de le même sens? Pour moi, ça a l'image d'une débuleuse dont on entend très peu parler au fond. Voilà. Et qui coûte peut-être.
Très bien, merci. On va s'arrêter là pour l'instant. On reprendra une série de questions et d'interventions. Je vais peut-être donner la parole à Monsieur Grignard. Il y a déjà beaucoup de choses qui vous concernent d'une certaine manière, qui concernent aussi Monsieur Roux-de-Bézieux, mais on va peut-être commencer par vous.
Oui. Je partage pas du tout l'idée qu'on est dans une France où les gens travaillent pas, où ils ont beaucoup de jours de congé et ils font que 35 heures par semaine. Parce que c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Tous les salariés qui sont dans des entreprises de moins de 20 n'ont jamais connu les 35 heures. Hein. Ils n'ont jamais été à 35 heures, ils ont été à 39 heures toujours. Enfin, aujourd'hui. Je vous cite un exemple très précis, parce que je rencontre beaucoup de monde. J'ai rencontré des salariés d'une entreprise de sous-traitance automobile à côté de Rennes, à 30 km de Rennes, qui fait des compresseurs pour les voitures. C'est une entreprise japonaise. Les salariés, les ouvriers, ouvrières, ce sont beaucoup des ouvrières, travaillent en deux équipes, matin, après-midi. La base horaire est de 35 heures. Depuis que la défiscalisation des heures supplémentaires est là, elles font plus d'une centaine d'heures supplémentaires. Et j'avais en face de moi une femme qui m'expliquait en tête à tête que elle finissait son travail, elle travaillait 5 jours et demi ou 6 jours par semaine, et que quand elle rentrait chez elle le samedi midi après ses heures travaillées à la chaîne, elle passait son week-end à dormir pour pouvoir reprendre le travail le lundi matin. Bon. Ça existe. Ça existe. Je dis pas que c'est tout le monde, mais ça existe. Ça existe. Y a que moi qui suis à 35 heures à la CFDT. Donc je crois pas que c'est tout à fait vrai, et je pense que on a un souci majeur dans notre pays, c'est qu'on a confondu la question de la durée du travail avec la question de l'intensification du travail, et qu'on a en moyenne des durées du travail un peu plus courtes que dans d'autres pays, mais une intensité du travail beaucoup plus forte qui abîme les gens et qui ne règle rien. Bon. C'était un simple point de vue. Alors, quant à la démocratie, ça rapporte, la démocratie. Ça rapporte. D'abord, dans l'ensemble des élus dont vous parlez et du politique, je rejoins ce que disait Geoffroy tout à l'heure, dans les petites communes, moi j'ai le père du copain de ma fille, d'une de mes filles, est élu municipal dans sa petite commune. Il n'est pas payé un seul centime, et les travaux de la commune, les élus font ça le week-end ou le samedi après-midi, hein, sur leur temps de bénévolat. Et ils font un travail pour la collectivité. Donc il faudra regarder un peu tout ça, et je ne crois pas qu'on peut vivre en société sans qu'on n'y mette pas un peu de prix. Mais je vais sur l'essentiel. Moi, je suis d'accord avec l'affirmation qu'on est dans des sociétés injustes, notamment parce que corporatistes. Et je rejoins une partie de ce que disait Geoffroy tout à l'heure dans ses constats. Je pense que le problème de fond auquel on est confronté est un problème d'injustice et de redistribution des richesses à l'échelle planétaire.
Pas tout à fait ce que j'ai dit, mais...
Non, mais je vais continuer. Attendez une seconde. Bon. Le fameux iPhone, je crois savoir que sur $150 qui est le prix de vente ou de revient d'un iPhone, les Chinois qui font le boulot ramassent $10. Hein. Et que les discours sur les Chinois nous piquent le boulot devraient être accompagnés, mais on leur pique le fric. Je prends la situation qu'on a dans notre pays. Selon qu'on est salarié d'un grand groupe industriel ou d'une grande entreprise bancaire, ou qu'on est salarié sous-traitant de premier, de deuxième ou troisième niveau, le rapport entre la richesse qu'on produit et la richesse qui nous est redistribuée est scandaleusement inégalitaire. Et les inégalités, elles sont là. Elles sont pas entre les 10% les plus payés et les 10% les moins payés. Elles sont entre les 0,1% les plus payés et la moyenne. Et elles sont entre les 10 et les plus payés, entre les plus et les moins payés. Je suis payé pour quoi faire et à quel niveau? Je cite un chiffre qu'avait sorti le CEREC il y a quelques années. 40% des salariés une année perdent du salaire par rapport à l'année d'avant. C'est-à-dire que les moyennes macroéconomiques qui sont celles que vous décrivez sont justes, elles ne rendent pas compte des situations individuelles des gens. Et c'est là que se situent les inégalités profondes. Alors, le corporatisme est un poison. Je pense que la fonction publique est très significatif de ces corporatismes qui, additionnés à un État non seulement centralisateur, mais qui confond en permanence son rôle de décideur public être de responsable des salariés rend la vie épouvantable dans les fonctions publiques. Donc il y a des choses comme ça évidentes. Je ne crois pas qu'on puisse régler le problème des inégalités si on ne casse pas les corporatismes. Mais ça renvoie à une question majeure qu'a évoqué Geoffroy tout à l'heure, mais j'ai pas le même point de vue que lui. Je pense que dans la crise que connaissent nos sociétés, il y a la question de c'est quoi l'intérêt général et comment ça se définit. Et que personne ne sait dire ce que c'est vraiment. C'est-à-dire qu'on est passé d'un État qui reste centralisateur, mais on est passé d'un État de la Révolution française qui a considéré que tous les citoyens étaient égaux en droit, en devoir, etc., et que c'est l'État qui assurait l'égalité de traitement, à un État qui ne sait pas répondre aux situations extrêmement hétérogènes des citoyens et qui ne sait pas dire ce qu'est l'intérêt général. Qui ne sait pas dire. Et que je pense que la responsabilité profonde de la société civile et du syndicalisme notamment, et de la confrontation entre les représentants des employeurs et les représentants des syndicats, c'est de faire émerger ce qu'est aujourd'hui un intérêt collectif. Et je fais le lien entre la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. C'est assez effroyable d'entendre des salariés au quotidien dire « Je suis chômeur, pourquoi je reprendrai un boulot puisque j'ai droit à l'assurance chômage ?» Pourquoi je ne prendrai pas un jour de maladie de plus puisque j'ai droit à l'assurance maladie, etc., etc. C'est-à-dire que le délitement de la vision de l'intérêt commun fait que nos systèmes de protection collective dont nous sommes tous solidaires deviennent des droits de tirage et non pas le moyen d'assurer la solidarité réelle. Bon. Et je crois que c'est à cette question-là que nous sommes confrontés. Et le fonctionnement global de l'économie a fortement détérioré les relations des individus entre eux. Quand je parlais tout à l'heure du mal au travail, c'est parce que... Je ne dis pas que les gens sont malheureux au travail, j'ai pas dit ça. Moi, je souhaite que le travail soit épanouissant et que les gens se réalisent au travail. Mais que dans l'entreprise, les salariés sont de plus en plus dans des tâches individuelles, on leur demande des comptes individuellement, et perçoivent de moins en moins leur appartenance à un projet collectif et leur place dans ce projet collectif. Et c'est à ça qu'il faut répondre. Et le débat sur la retraite n'a pas posé ces questions du corporatisme. On n'a pas réussi à poser comme il faut, ou certains syndicats ne l'ont pas fait, la situation des régimes spéciaux. Et je redis, alors ça n'a pas été assez dit, ça peut-être, mais le reproche majeur que je fais à cette réforme-là, des retraites, c'est que devant un effort collectif à faire, le gouvernement a décidé qui faisait un effort et qui n'en faisait pas. C'est ça le problème de fond. Je m'explique. Moi, je vais probablement travailler jusqu'à 63, 64 ans, j'en sais rien, j'ai pas un souci, je me sens bien dans ce que je fais. Je connais un tas de salariés qui ont envie de travailler longtemps. Bon. Mais peut-on demander à quelqu'un qui a commencé à bosser à 18 ans de travailler à 62 ans, comme on demande à celui qui a commencé à bosser à 22 ans de travailler jusqu'à 62 ans? Est-ce qu'on peut, au nom de l'équité, dire à quelqu'un... ce droit commun à la retraite, toi, mon gars, t'as pas eu de chance, tu dois donner 4 ans de plus de ta vie professionnelle que ton voisin. Ça, faut m'expliquer, ça. C'est inexplicable. Bon. C'est là le fond de l'injustice sur cette réforme. La CFDT, oui, la CFDT est convaincue que le système actuel est obsolète. Bourré de rustines, et que la seule solution aujourd'hui, c'est d'avoir des systèmes qui permettent les choix individuels. C'est incontournable. Mais ça oblige l'État centralisateur et jacobin à considérer que les individus, c'est des individus. Et qu'il a la responsabilité de bâtir des systèmes qui permettent les choix individuels, et non pas de décider à sa manière ce qu'est le bonheur de chacun des individus. Bon. Mais ça, il sait pas le faire. L'État ne sait pas le faire parce que ça fait 2 siècles qu'il ne sait pas le faire. Et plus ça va, moins il peut le faire.
Bon, comme il y a beaucoup de sujets, moi je vais pas tout couvrir parce que on n'y arrivera pas. Il y a des choses que Marcel a dit avec lesquelles je suis d'accord, d'autres avec lesquelles je suis peut-être, moins d'accord. Moi je voudrais peut-être insister sur deux choses. Oui, on est un pays corporatiste. Et je pense qu'on souffre beaucoup de ça. La corporation, le principe, c'est que c'est le dernier qui est rentré à l'abri dans la maison, ferme la porte pour s'assurer que personne ne puisse rentrer. Ça fonctionne à plein de systèmes. Ça fonctionne à SNCF, ça fonctionne chez les Decker à Marseille, mais ça fonctionne aussi dans la téléphonie où on empêche la concurrence. C'est un principe de fonctionnement d'une société qui doute de l'avenir. Je reviens un tout petit peu à mon thème. Si vous avez confiance en votre destin, si vous avez confiance dans vos possibilités, vous n'avez pas de problème à partager avec les autres. Parce que vous dites, de toute façon, moi, je serai maître de mon avenir. C'est vrai pour une organisation collectivement et c'est vrai pour un individu. Donc on est sur une société qui est stratifiée et corporatiste et qui crée d'énormes blocages. Et c'est vrai que s'il y a un défaut dans la réforme de retraite, c'est qu'on aurait pu partager différemment, y compris sur certains corporatismes. Alors on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes, mais c'est tout à fait exact. Et puis, je voudrais rebondir sur la question, la troisième question, là, sur le clivage générationnel. Moi, quand j'observe les salariés, donc on a une moyenne d'âge de 29 ans dans l'entreprise, et on a des gens qui sont extrêmement employables, parce que plutôt diplômés, plutôt dans un secteur qui recrute, et plutôt dans les métiers qui recrutent. Donc ils cochent toutes les cases, si vous voulez, de l'employabilité. Et donc on a plutôt face à nous des gens qui, évidemment, n'ont pas... ce sont la partie dynamique de la population. C'est la partie qui n'a pas trop d'angoisse sur l'avenir. Tout simplement parce qu'ils ont les atouts en main pour jouer la partie, pour jouer le match, si vous voulez. Ils ont eu le bon entraînement. Et le contrat social de l'entreprise a profondément évolué par rapport à cette population-là, parce que ils ont vu leurs parents se faire mettre dehors, avoir des plans sociaux, etc. Ils savent très bien que on est de part et d'autre dans un contrat. Alors, je ne parle pas de contrat sur le plan technique, mais dans un contrat à durée déterminée, au sens où, si l'entreprise ne fonctionne pas, ils savent qu'il y aura d'une manière ou d'une autre des réductions d'effectifs. Et dans l'autre sens, c'est très important à comprendre, ce sont des salariés zappeurs. C'est-à-dire que, étant employable, moi j'ai un grand bureau, vous savez, paysager devant mon bureau, donc je passe au milieu des collaborateurs, chacun leur espace. On voit souvent des gens qui sont sur Monster ou sur Quel Job, etc., en train de vérifier que leur CV est bien toujours là et s'il n'y a pas une offre d'emploi un peu plus chère. Et donc le job du patron là-dedans, c'est d'abord de fédérer autour un sens commun. Je partage tout à fait ce qu'il dit, mais je n'ai pas tout à fait la même analyse. Je pense que la plupart des patrons font ça. Ils essaient de trouver un projet commun à l'entreprise et d'allier performance individuelle et projet commun. La génération des trentenaires est tout à fait lucide sur la manière dont les choses vont se passer. Et donc il y a ceux qui s'en sortent. Il y a ceux qui ont, par leur naissance, par leur diplôme, par le secteur qu'ils ont choisi, l'employabilité qui est nécessaire, et puis il y a ceux qui s'en sortent pas, qui ont peur. Alors soit ils sont dans le bon côté du truc, parce que papa est à la SNCF, donc ils sont rentrés à la SNCF. Je prends cet exemple à dessein, un peu par provocation, mais c'est vrai dans plein de systèmes. Ou bien ils s'en sortent pas, et ils ont une angoisse terrible de l'avenir. Je conclurai sur Pôle emploi. Là aussi, c'est une position un peu individuelle, mais Pôle emploi, donc, c'est le nouveau système qui s'occupe des demandeurs d'emploi. Et comme dans un système républicain avec une égalité parfaite, que vous soyez informaticien de 25 ans, surdiplômé et donc capable de trouver un job tout seul, ou que vous soyez une femme âgée, issue d'une minorité ethnique qui n'a pas travaillé pendant 2 ans, le traitement est quasiment le même. De la même façon que personne ne paye l'université. Donc, il y a marqué liberté, égalité, fraternité sur nos mairies, mais en réalité, la seule chose qui compte pour les Français, c'est égalité. Et cette égalité-là de traitement est en fait une formidable inégalité. Pourquoi ? Parce que à moyen constant, financé par des cotisations ou par l'impôt, quel que soit le sujet, on devrait consacrer plus de moyens, plus de temps à ceux qui sont loin de l'emploi et qui ont très peu de chances de retrouver. Donc il y a des gens qui devraient être retrouvés vus une fois par semaine. Et puis il y a des gens qui ne devraient jamais aller au Pôle emploi parce que de toute façon, ils sont complètement autonomes dans leur recherche d'emploi. C'est une idée assez simple. Pays ultra-libéral ou réputé ultra-libéral comme l'Angleterre le fait depuis longtemps. Vous êtes classé de 1 à 7 en fonction de votre distance à l'emploi. Si vous êtes 1 ou 7, je ne sais plus d'ailleurs, vous n'avez pas besoin du service public. Mais nous, on a cette espèce de gène égalitaire, qui est très différent de l'équité pour moi, qui est greffé dans notre modèle, dit modèle républicain, et qui fait que on consacre le même argent ou le même temps, enfin ça revient au même, les mêmes efforts, si vous voulez, les mêmes ressources. De la même façon, si vous voulez, là je sors complètement du cadre, que moi j'ai 4 enfants, ils iront faire des études, ben, s'ils vont à la fac, alors que j'ai très nettement les moyens de leur payer des études, on ne me demandera pas de payer pour contribuer. C'est une aberration. Il faut faire payer les études parce que ça a une valeur, et puis trouver un système de bourse pour ceux qui ne peuvent pas payer. Mais non, on a un système républicain, c'est tout le monde pareil, donc personne ne doit payer ou tout le monde paye. Mais de toute façon, ça ne marche pas. Ouais, moi, je trouve que ce sont les deux blocages de cette société qu'il faudrait un jour réformer.
Merci. Je voudrais redonner la parole juste sur la question du clivage générationnel. Je crois que vous aviez aussi des choses à dire qui vont peut-être aller...
Mais je vais rebondir sur ce que disait...
Voilà, il y a un vrai débat.
Pôle emploi. Parce que je suis d'accord avec ce que vous dites, hein, sur Pôle emploi. Je ne sais plus si on se tutoie. Bon. Moi, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Moi, je fais partie de ces syndicalistes qui disent publiquement, donc je peux le dire ce soir, que, par exemple, les indemnités de licenciement sont scandaleuses. Parce que elles sont bâties sur... un, le niveau de salaire, et deux, la durée d'ancienneté. Et qu'en général, quand vous êtes plutôt employable et que vous avez une bonne expérience professionnelle, vous avez un bon salaire et beaucoup d'ancienneté. Et donc, il faudrait une prime d'ancienneté inversement proportionnelle à la réemployabilité. Quand je dis ça au milieu des syndicats... À la CFDT, ça passe, hein, quand je dis ça. Mais mes autres collègues syndicaux sont assez réticents à cette idée-là. Et... je n'imagine pas du tout, le patronat et les DRH prêts à embrayer là-dessus, parce que probablement, ils ont beaucoup d'ancienneté et un peu de salaire.
Je peux juste intervenir sur ce point-là.
Juste, allez-y.
La logique n'est pas... Non, pas la dernière truc. Non, le raisonnement... Il y a quand même deux... Comment dire ? Il y a deux nuances à ce que vous dites, quand on réfléchit juste de manière opérationnelle sur cette idée de revoir les indemnités de licenciement. La première, c'est qu'il y a un moment où vous êtes moins employable, quand vous êtes ancien, et même bien payé. Et donc, c'est beaucoup plus complexe que de dire, en fait, pour faire simple, plus vous êtes vieux, plus vous êtes bien payé, plus vous trouvez un job. Il y a un moment où ça s'inverse, malheureusement, hein, et c'est d'ailleurs une de nos responsabilités. Et l'autre chose qui est juste un sujet opérationnel, c'est que quand vous êtes bien payé, vous avez généralement un train de vie, une maison, des loyers à payer, etc., et que du jour au lendemain, il y a un problème. Donc, je dis pas que... c'est pas aussi simple à mettre en œuvre que la manière dont vous l'avez expliqué. Voilà.
Il faut pas non plus que, parce que c'est compliqué, on fasse pas. Parce qu'après on peut trouver tous les correctifs qu'on veut. Moi, je suis prêt à regarder comment on peut faire. Je reviens sur la question générationnelle. Je crois que le syndicalisme dans son ensemble, mais il faut se méfier quand on dit ça, parce que fatalement on dit des choses fausses. Mais le syndicalisme dans son ensemble ne fait pas l'effort de mesurer la diversité interne au salariat. Et de vérifier comment le salariat en lui-même est profondément inégalitaire et que dans ces inégalités, il y a des questions générationnelles. Je crois qu'il ne le fait pas assez. Je crois que quand, par exemple, le syndicalisme dit allonger la durée de vie au travail, c'est empêcher les jeunes de rentrer, il dit une chose fausse et c'est scandaleux. Bon. Donc je pense qu'il faut interpeller le syndicalisme sur cette question-là. Deux, le syndicalisme a beaucoup de mal à reconnaître que le monde d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier et que la question de l'engagement pour les jeunes générations ne ressemble pas à la question de l'engagement pour les vieilles générations. Et que je trouve encore trop de gens de mon âge, moi aussi j'ai les cheveux blancs, qui disent les jeunes sont plus individualistes, ils sont moins généreux, ce qui est des conneries monumentales. Il faut se poser la question de comment les jeunes d'aujourd'hui, dans le monde qui est le leur, se posent un certain nombre de questions et comment on leur permet de s'exprimer et de militer, de s'engager à leur manière, à eux, dans le monde qui est le leur, en fonction de leur vision du monde, et non pas en fonction de la vision d'une autre. Je pense que là-dessus, le syndicalisme, partout dans le monde, pas qu'en France, a un effort considérable à faire. Et je partage le fait qu'au total, nos choix ou nos non-choix ont privilégié la situation des plus anciens. On est un des pays d'Europe, et peut-être du monde, où le revenu des retraités vaut largement le revenu des actifs. C'est quand même un cas particulier.
Alors nous reprenons une série de questions ou de convictions. Il y en a une tout au fond. Ouais, voilà.
Alors je vais rebondir sur deux points et je vais vous poser juste une question. C'était un sur le corporatisme et deux sur la manière de ce que vous appeliez le colbertisme effréné. J'avais lu que par rapport à d'autres pays étrangers, pourquoi on avait du corporatisme en France, c'est parce que notamment la réalisation de soi-même en France passe énormément par son accomplissement au travail, sa position dans la société, et que perdre son travail, c'était perdre sa position sociale, et c'était vécu comme un déclassement beaucoup plus fortement que dans des pays, par exemple, d'Europe du Nord. Donc je me demandais, est-ce que on parle de corporatisme, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui expliquerait ce corporatisme par rapport à des pays, j'allais dire européens, par rapport à d'autres pays européens. Et ensuite, j'allais dire que, par exemple, sur le colbertisme, il y a une espèce de culte du chef ou culte du patron, je ne sais pas. En France, ça a été aussi noté par les études sociologiques qui disaient que le patron doit avoir raison, je le dis d'un côté ou d'autre côté, j'espère que vous ne me prendrez pas mal.
C'est de moins en moins vrai.
Il n'y a pas forcément un culte de la responsabilité, qu'il doit avoir raison et donc on impose. Il n'y a pas forcément uniquement l'État et des jeunes énarques qui sont des colbertistes, mais que cette situation se retrouve à différents niveaux d'échelle en France. Et voilà, et je vais finir en disant simplement, par exemple, quand on parle de dialogue social, il y a les situations qui sont quand même très très différentes dans les pays. Et je sais, par exemple, qu'en Hollande, ou dans les pays, genre l'Allemagne, la Hollande, en tout cas, le conflit, c'était quelque chose de très très gênant. Donc on l'évite, le conflit, et que derrière, on avait un taux d'accident très fort. Et par exemple, aux États-Unis, on a le culte de l'objectif et ne pas le respecter. Ça, c'est ce qui manque. Et donc, on parle de management selon les pays. Et j'ai envie de dire, et à l'international, comment vous justifieriez ça? Comment vous compareriez, la dernière question, comment vous compareriez la situation en France par rapport à des situations en Europe du Nord, parce que vous avez évoqué un petit peu, ou par rapport à des pays comme l'Angleterre?
Merci, Emmanuel. Il y avait une question devant. Voilà, on descend.
Oui, j'ai une question et puis un étonnement pour moi. Pendant les grèves et les défilés, j'étais un peu consterné, pris au piège entre effectivement le sentiment que la France n'est pas un pays très juste et que en plus on peut faire partie des privilégiés, et que en même temps j'étais consterné de la non prise en compte par les gens qui défilaient, par les gens avec qui on parle et qui étaient de bonne volonté, qui sont de bonne foi et qui ne comprenaient pas justement que tout ce que vous avez expliqué sur le fait que la France, l'Europe est prise à partie entre des pays qui bougent comme le Nord-Amérique. J'ai une fille et des petits-enfants au Canada, j'ai une fille et des petits-enfants en Chine, et donc je bouge beaucoup et je rencontre des gens qui bougent, qui se développent, et quand on retourne en France, je ne comprends pas cette société totalement bloquée, et surtout des gens intelligents, en qui on a confiance, qui sont de bonne foi, et qui sortent des contre-vérités au point de vue économique. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas privilégier une meilleure connaissance par les Français, par les jeunes et par toutes les classes sociales des grands mouvements économiques du monde pour les sortir de cette espèce de peur et d'immobilisme face à un monde qui bouge à une vitesse grand V?
Merci. Alors une troisième, voilà, et puis on aura une quatrième. Après, il y a beaucoup de questions, on ne va pas pouvoir les prendre toutes, mais voilà.
Oui, moi je voulais revenir sur la question du marché du travail, parce qu'en France, on sait qu'on a le plus faible taux d'emploi des jeunes et des seniors en Europe, donc c'est aux deux extrêmes. qu'on n'arrive pas à faire entrer les gens sur le marché du travail. Et en même temps, comme le dit M. Grignard, il y a une forte intensification du travail puisqu'on a le plus fort taux de productivité dans l'OCDE. Par rapport aux questions sur le marché, le nouveau chantier sur l'emploi qui va s'ouvrir, quelles sont à votre avis les mesures les plus urgentes et les plus universelles, pour reprendre le critère de Saint-Ignace de discernement, qu'il faudrait mettre en œuvre pour que effectivement l'emploi soit effectivement ouvert à plus de gens? Et en même temps aussi, j'ai senti que vous n'étiez pas très convaincu sur quand vous disiez.
C'est à moi que ça s'adresse, manifestement.
Sur le travail, qu'il fallait. Vous disiez que c'était une conviction et une espérance que le travail soit plus épanouissant. Mais c'est vrai qu'on a quand même des signaux alarmants dans les entreprises. Alors, vous, votre secteur, c'est quand même un secteur ultra dynamique. Mais il y a quand même des secteurs où les gens, on sait qu'il y a des problèmes de risques psychosociaux et de stress au travail. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas quand même revoir les critères de performance pour que. Concilier plus l'économique et le social? Mais est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas le moment de changer de système?
Merci. On va prendre une dernière question. Voilà, monsieur, levez bien la main plus haut, là, voilà, au milieu.
Oui, on parle des réformes des retraites. En fait, la réforme qu'il y a eu, c'est uniquement la sécurité sociale. Je rappelle quand même qu'il y a les régimes Marco et Agir qui sont de la responsabilité exclusive des partenaires sociaux. On parle toujours de l'intervention de l'État et du colbertisme. Normalement, la sécurité sociale devrait être gérée paritairement. À l'origine, c'était comme ça. C'est l'État qui a repris la main. On peut se demander d'ailleurs si ça arrange pas aussi les partenaires sociaux que l'État prenne certaines décisions que l'Agir et l'ARCO n'auront pas à prendre. Hein. Bon, ça c'est un peu méchant, je veux dire. Je voudrais quand même ajouter un petit détail que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est quand la retraite est passée à 60 ans, le règlement de l'ARCO et l'Agir n'ont pas changé. 65 ans toujours. Il a fallu une structure particulière pour déroger à cette règle qui n'a jamais été abrogée. D'accord ? Bon, faut bien comprendre ça. Alors, donc, le rôle des partenaires sociaux, l'ARCO et l'Agir, il n'est pas changé. Alors, le rôle de l'État consistait uniquement à les rendre obligatoires. Parce que pour des raisons techniques, un régime en répartition ne peut fonctionner que s'il est obligatoire. Mais l'État n'intervient pas. Ensuite, en ce qui concerne les inégalités, il y a quelque chose aussi, je crois, qui est fortement ressenti dans les entreprises. C'est que beaucoup de chefs d'entreprise ont des retraites chapeaux ou des retraites supplémentaires dont ne bénéficient pas les salariés. Et ça, c'est aussi un facteur d'inégalité. Il y a même des chefs d'entreprise à qui on maintient leur revenu après leur départ en retraite. Bon, ça aussi, ça, c'est connu. Alors, je veux dire, c'est bien gentil des fois de parler d'inégalité, mais là, il y a quand même des choses aussi qu'il faudrait peut-être revoir. Alors, en ce qui concerne...
Puis peut-être le dernier point de votre intervention.
En ce qui concerne le malaise au travail, je crois que beaucoup de chefs d'entreprise se font des illusions. D'abord, les employés n'ont souvent pas envie de parler. Il me semble que le critère, c'est de, quand même de dire que les gens ont envie de partir en retraite le plus tôt possible. Alors, ça doit interroger les gens. Alors moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un livre que je conseille à lecture à tout le monde, c'est le livre de Monsieur Dejour. Hein, et j'ai été assisté à des conférences du MOS. On en est à un point tel maintenant dans les entreprises que les organisations sont souvent, en particulier dans les grandes entreprises, tellement invraisemblables que les entreprises ne peuvent pas fonctionner si les employés ne désobéissent pas au fonctionnement tel qu'il est organisé. Ils en sont arrivés là, les sociologues. Alors, dire qu'il n'y a pas de malaise dans les entreprises, je trouve que quand même, là, c'est quand même un peu poussé. Hein.
Très bien. Merci beaucoup. Geoffroy Roux de Bézieux.
Alors, oui, c'est mon tour.
Vous avez le choix, là. Vous pouvez prendre les choses...
Non, mais je vais le faire dans l'ordre. Alors, je vais commencer. Voilà, j'ai à peu près noté. Bon, sur le corporatisme, moi, je crois que ce qui marque ce pays, c'est l'absence d'un destin commun. On n'a plus de destin commun. C'est une autre manière de parler d'intérêt général, d'ailleurs. Hein. Si, parce que dans le mot destin, alors, je vais peut-être essayer de développer ça, mais dans le mot destin, il y a le mot avenir. Si vous voulez, c'est qu'une nation, une collectivité, une entreprise, d'ailleurs, un village, etc., mais c'est vrai au niveau de la nation, elle se projette vers l'avenir et ça fonctionne si... une majorité des citoyens a la même vision de ce qu'il faut faire. Nous, on n'a plus de destin commun. On l'a eu pendant des années. Je ne reviens pas à la résistance, à la guerre de 14, etc. Mais dans l'élan de 45, les Trente Glorieuses, ça a été un destin commun. C'était l'assiette de consommation, l'assurance, ou en tout cas pas l'assurance, mais une certaine forme d'assurance que notre vie matérielle allait s'améliorer et que celle de nos enfants serait, enfin c'était pas, moi j'étais plutôt de l'autre côté, mais que les enfants auraient une vie meilleure que celle des parents. On l'a plus. Et l'Europe, pas beaucoup parlé d'Europe, mais n'a pas su redonner cet élan commun. Il y a 10 ans, alors ça peut vous parler beaucoup, il y avait un truc qui s'appelait l'agenda de Lisbonne. La Lisbonne, c'était finalement le constat que j'ai fait tout au début, de dire, bon, l'Europe ne va faire pas la course aux salaires les moins chers pour fabriquer, elle va pas y arriver, il faut être le lieu où on innove, le lieu où toutes les grandes innovations du siècle à venir, à l'époque, petite parenthèse, toute l'industrie télécom était en Europe. On ne le sait pas, mais la norme GSM hein, qui a déclenché l'explosion du téléphone mobile a été inventée par les ingénieurs de France Télécom, au CNET. Aujourd'hui, il n'y a plus d'industrie high-tech en Europe. Tout est parti aux États-Unis. Et on a perdu complètement cette capacité innovée. L'agenda de Lisbonne n'a jamais été réalisé. Et ça aurait pu être un projet commun pour créer de la croissance et pour derrière tirer toute la société. Et ça n'a pas eu lieu. Donc je pense que ce corporatisme, il est exacerbé par l'absence de projets communs. Sur le mode de management à l'étranger, oui, on est une société hiérarchisée. Il y a des tas de bouquins de sociologues qui expliquent que dans les grandes entreprises françaises, historiquement, le mode de management est plus hiérarchique, plus autoritaire que dans des sociétés anglo-saxonnes ou dans de l'Europe. Mais vous permettez de dire que les mêmes sociologues rajoutent que la quintessence du mode de management hiérarchisé et stratifié, c'est l'État. Qu'est-ce qu'il y a de plus bureaucratique, de plus où l'initiative individuelle est interdite que la fonction publique. Et certaines grandes entreprises, à tort, se sont rapprochées de ce modèle de management, qui est très français, mais qui est exacerbé dans notre fonction publique. Sur les Français comprennent pas l'économie, je suis pas d'accord avec vous. Je crois au contraire qu'ils le comprennent d'autant mieux. Avec EasyJet et Internet, ça, les jeunes voyagent énormément, j'allais dire, en réalité, aux procurations. Et je pense que cette angoisse dont je parlais, elle vient au contraire d'une parfaite compréhension que notre modèle ne fonctionne plus. C'est bien l'inverse. J'allais dire, plus on leur parle d'économie, plus on leur fait peur, en quelque sorte. Vous savez, il y a eu beaucoup de tentatives dernièrement. Je crois que c'était Thierry Breton qui avait créé un truc appelé le CODIS pour enseigner l'économie aux Français. Je pense qu'on prend les Français pour des idiots. Ils sont tout à fait capables de comprendre. La mondialisation, ils le vivent toute la journée. Ils le vivent en faisant leurs courses dans les hyper. Ils le vivent quand il y a un plan social dans une usine qui ferme. Ils le vivent en voyant ce qui se passe à la télévision. Ils sont bien plus conscients de la réalité du monde, même pour ceux qui ne voyagent pas, que ce qu'on croit. Simplement, ils en ont peur. Ils ont peur de ne pas gagner le match. Ils ont peur que tout ça remette en cause leur niveau de vie, ce qui fait leur bonheur au sens plus large, hein, pas seulement matériel. Et ils ont peut-être en partie raison. Donc, je pense que le sujet, c'est pas tellement de leur enseigner l'économie, c'est plutôt de leur redonner l'espoir dans notre modèle, l'espoir que l'Europe va s'en sortir. C'est plus comme ça que je vois le problème. Et c'est évidemment pas le plus simple. Sur la troisième question, celle du stress au travail. Alors, je vais être très provocateur, mais m'excuserez. France Télécom, il y a 100 000 personnes. Je connais très très bien France Télécom. Hein, je travaille avec eux comme client, fournisseur, etc. depuis 15 ans. Je peux vous assurer que les gens chez France Télécom travaillent 10 fois moins que les gens qui travaillent chez moi. Mais vraiment, ça n'a rien à voir. Et le stress qu'ils ont n'a absolument rien à voir. Parce que nous, on est une start-up. J'ai démarré l'entreprise il y a 5 ans. Il y avait 0 salarié. On est 200 au siège, 1000 en tout. Les gens se défoncent, on ne peut pas imaginer. Si un inspecteur du travail venait le soir, il verrait des gens qui travaillent tard le soir. Moi, je suis obligé de partir en leur disant « Allez, maintenant, c'est fini, vous rentrez chez vous. » Pourquoi ? Parce qu'ils ont du sens dans ce qu'ils font. Parce qu'ils sont épanouis au travail. Alors, pas 100%, vous trouvez sûrement des salariés chez moi qui sont pas contents. Mais ils savent ce qu'ils font. Le problème de France Télécom, c'est pas le stress au sens organisation, au sens quantité de travail, productivité. C'est qu'ils ne comprenaient plus ce qu'ils faisaient. Parce que en 2002, Michel Bon leur a dit « on va transformer l'entreprise » et il leur a pas dit que dans le monde de la high-tech, des télécoms, il fallait transformer l'entreprise tous les ans, tous les 2 ans et que les gens allaient changer de job parce que c'était la nature même du marché dans lequel ils étaient. Et donc, si vous voulez, quand vous avez pendant 30 ans fait un métier et qu'on vous dit « il va falloir faire autre chose », c'est extrêmement déstabilisant. Et quand on vous dit 2 ans après « il va falloir faire encore autre chose », vous venez de passer 2 ans à essayer d'apprendre un nouveau métier, c'est absolument terrifiant. Le sujet, il est là. Et donc, je ne crois pas du tout à cette histoire de malaise au travail. Je pense que c'est une intoxication médiatique complète. Oui, il y a des cas, bien sûr, terribles, y compris chez France Télécom. Oui, il y a des gens qui sont stressés, mais c'est une notion complètement relative. Elle est relative au sens que vous donnez à votre travail. Si on n'a pas su vous donner le sens, si le patron, et là je mets la responsabilité complètement chez le patron, enfin le patron, l'encadrement, enfin les gens qui n'a pas su vous expliquer pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi on vous fait faire ça, pourquoi l'entreprise prend une telle décision, alors là il y a un problème. Moi je considère que le rôle d'un patron c'est au moins 20% de son temps en communication, non pas en roadshow avec les actionnaires, mais avec ses salariés, c'est la seule manière de faire travailler les gens. Parce qu'aujourd'hui les gens ne travaillent plus si on leur dit pas pourquoi. Mais je ne crois pas du tout à cette idée de « il faut réinventer les modes de travail », etc., etc. Qu'il y ait ça et là des problèmes, qu'il y ait ça des écarts, bien volontiers. Mais que, si vous voulez, fondamentalement, le travail soit une source de stress et qu'il faille le penser autrement, je ne crois pas. Et encore une fois, je reviens sur la fonction publique, le mode le plus bureaucratique, le mode le plus hiérarchisé, là où on laisse le moins d'initiatives, on n'explique pas pourquoi. Si vous avez fait, vous... Je suis sûr que vous êtes arrivé la queue dans, pourquoi, la sécu, machin, et que la fille vous dit, non, j'y peux rien, c'est le règlement, je peux rien faire. Ça, c'est la quintessence de l'absence de sens au travail. Donc elle est là, le minimum de temps pour faire ce qu'on lui demande, parce que de toute façon, elle n'a pas de marge de manœuvre. Je vous assure que les entreprises, en particulier les PME, fonctionnent pas comme ça, sinon il y a longtemps qu'elles auraient fait faillite. Alors, sur la quatrième question, il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise qui ont des retraites chapeaux. Il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise, monsieur. Le salaire moyen d'un chef d'entreprise en France, c'est 3000 euros. Et il n'a pas de retraite chapeau, je vous assure. Alors, qu'il y ait 10, 20, 30 chefs d'entreprise qui ont des retraites chapeau, oui, c'est vrai. Ils sont très médiatisés, oui, c'est vrai. Ils ne les méritent pas, oui, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas en tirer un exemple. Je suis désolé, parce qu'à ce moment-là, moi, je vais vous parler... Non, mais je vais vous parler... Je suis désolé de dire ça devant Marcel Gagnard, mais des syndicalistes de la CGT à Marseille, qui, on sait très bien ce qu'ils font, qui puissent dans la caisse... En permanent, je peux vous parler à Favier, voilà, je peux tirer d'un exemple particulier une théorie générale absurde. Je pense que c'est pas juste. Ça n'est pas représentatif de ce que c'est qu'un patron français. Oui, et d'ailleurs, le MEDEF, alors je vais faire un peu de pub, a mis en place un nombre de règles qui commencent à être appliquées, qui interdit la retraite de chapeau, donc petit à petit, vous allez faire disparaître. Vous pouvez pas tirer de cet exemple-là le fait que la société française est injuste. Moi, je pense que vous évoquez en creux le problème de rémunération, etc. On n'a pas parlé à mesure des patrons, mais moi je suis prêt à l'aborder. Je suis prêt à vous dire combien je gagne et pourquoi je pense que c'est mérité. Et je pense que c'est le fondement du truc. C'est-à-dire que dire il faut qu'il y ait un patron ne doit pas gagner, je ne sais pas quoi, 10 fois plus que la moyenne des employés, je trouve que c'est une absurdité complète. On doit pouvoir gagner ce qu'on est capable, vis-à-vis de toutes les tierces parties de l'entreprise, de justifier. Les actionnaires, les clients, les salariés. Donc moi je peux regarder tous les gens de l'entreprise dans les yeux en disant voilà ce que je gagne. Et le problème, c'est qu'à un certain niveau, un certain nombre de patrons ont franchement dérapé. Alors, on peut revenir sur les affaires. Mais encore une fois, ça n'est pas représentatif du tissu d'entreprise français. Ça fait la une des médias, parce que c'est plus rigolo à raconter que la vie quotidienne du patron de PME. Mais je vous assure que c'est très 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 loin de 99% des patrons français qui sont en général payés. Je veux dire, la moyenne est à 3000, je ne sais plus combien, 3002, je crois, quelque chose comme ça. Et ils ont toute l'angoisse du chef d'entreprise. Ils rament pour finir les fins de mois de l'entreprise. Enfin, ce n'est pas du tout le quotidien d'un chef d'entreprise. Voilà, mais je suis sûr que Marcel a des choses à ajouter sur ces questions.
Je terminerai par ça. Pour faire très court, je crois qu'il y a deux ou trois différences fondamentales entre la France et d'autres pays européens, notamment les pays du Nord, mais pas que. Premier point, la France est sans doute un des pays les plus rétifs à l'économie de marché. C'est pas le cas de l'Europe du Nord, c'est même pas le cas de l'Espagne ou de l'Italie. En France, on a une vision révolutionnaire, entre guillemets, de l'économie et du capitalisme. Donc on a un vrai problème avec ça, déjà. Deux, on a une mauvaise représentation de ce qu'est l'économie et de ce qu'est l'entreprise. Moi, je ne partage pas ce que vous disiez sur l'économie. Alors, je prends un exemple simple. Vous parliez des pays nordiques. Mes collègues syndicalistes suédois ou norvégiens ou danois considèrent qu'une entreprise qui vit et qui meurt, c'est la vie et ce n'est pas un problème. Et ils ne font pas d'histoire avec les licenciements. En France, les licenciements économiques sont considérés comme un drame systématique. même si les licenciements économiques ne représentent que autour de 5% des fins de contrats à durée indéterminée. 5 ou 6%. Mais on a cette représentation-là. Bon. Donc il y a des dizaines de milliers de gens qui changent d'emploi sans crier gare, mais ce qui marque, c'est les licenciements économiques. Ce qui fait que les salariés en France ont une peur, notamment dans les grandes entreprises, ont une peur bleue, et avec raison, de licenciement économique, parce que souvent, c'est le risque d'être, pendant une bonne partie des mois qui vont suivre, privé d'emploi. Donc, je pense que c'est ça qui crée l'angoisse et qui particularise la France. Autre point, vous l'avez dit en parlant de la Hollande, mais on pourrait le dire de la plupart des autres pays, nos voisins ont l'habitude du dialogue et du compromis. En France, on a longtemps été dans le refus du compromis, dans le compromis implicite, et on est depuis quelques années dans le compromis explicite, mais c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Bon. Et que c'est dramatique. C'est-à-dire que je vois pas comment... Enfin, pour moi, l'enjeu, un des enjeux du dialogue, il est là. Par rapport aux défis profonds auxquels on est confronté, je partage ce que disait Ruth Bézieux au début, hein, le monde a complètement changé, et il faut l'expliquer. C'est pas un vrai drame, mais on ne s'en sort pas si on ne trouve pas des compromis intelligents dans la société, dans les entreprises, où on trouve le mariage intelligent entre la question économique et la question sociale. On ne les oppose pas, mais on en fait deux facteurs interconnectés et qui font le progrès. Et ça ne peut passer que par le dialogue. Je vais y revenir là-dessus. Mais c'est une grande différence avec les autres pays. Je cite souvent l'Espagne, qui est une démocratie jeune. Quand un chef de gouvernement arrive au pouvoir, il réunit les partenaires sociaux, il décide d'un certain nombre de chantiers. Ça a été vrai avec Aznar, c'est vrai avec Zapatero. Les partenaires sociaux ont 2 ou 3 ans pour tirer 10 ou 15 chantiers sur lesquels on s'est mis d'accord. Et pendant ce temps-là, le gouvernement les laisse tranquilles et vient pas interférer tous les matins. Nous, on connaît pas ça. Nous, on peut pas être 3 jours tranquille. Bon. Donc, ça change complètement. Ça change complètement la vie. Alors, après, vous n'avez pas tort quand vous dites « Est-ce que les partenaires sociaux n'en profitent pas un peu ?» Ben oui. Comme les partenaires sociaux, ils n'ont pas eu l'habitude de s'engager, ils profitent du fait que l'État vienne sur leur plate-bande pour ne pas s'engager. On est dans un cercle vicieux qu'il faut inverser. Donc moi, je crois profondément que les salariés français ont une vision assez fausse de l'économie. Assez fausse. Et les journalistes et les politiques trimballent ces idées-là. Je prends un exemple simple, récent. Renault a décidé il y a quelques semaines de balancer plusieurs milliers de salariés les plus âgés. Bon. C'est pas terrible. Bon. Beaucoup de journalistes ont dit, et de commentaires ont dit, regardez, en plus de ça, c'est scandaleux parce que Renault, comme Peugeot, emploie en France, pour produire les véhicules qu'il fabrique, emploie en France beaucoup moins de salariés, proportionnellement, que ce que fait Volkswagen en Allemagne, qui, lui, garde ses salariés. Bon. Ce qui est juste, il y a plus de salariés appelés Volkswagen pour faire des voitures en Allemagne, compte tenu de ce que fait Volkswagen, que de salariés Renault ou PSA, voilà. Bon. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit. Quand vous achetez une voiture, sur 100, il y a 15 qui est produit en interne du constructeur, 85 qui est acheté. Et la vraie question, c'est, Renault, il achète où ses 85, Volkswagen achète où ses 85. Et la différence, c'est que Renault achète ses 85 beaucoup plus en France que ce que Volkswagen achète en Allemagne, et que le surcoût des salariés Volkswagen-Allemagne par rapport aux salariés français, Renault, est compensé par une pression accrue sur les sous-traitants de Volkswagen, qui va acheter ses produits beaucoup plus loin que ce que fait Renault. Et si on ne dit pas ça aux gens, et au total, probablement que la filière automobile française emploie plus de salariés en France pour produire une bagnole que ce que fait les Allemands. Mais personne ne sait ça. Tout le monde a le sentiment que les constructeurs français sont socialement bien pires que les Allemands. Ce qui n'est pas vrai. Bon. Et ça, personne ne le sait. Personne ne le dit. Si, moi, je le dis là. Bon. Mais donc, on a une très mauvaise... Et je reviens sur l'exemple que je disais tout à l'heure de l'iPhone, mais je pourrais d'autres exemples. Moi, j'étais scandalisé par tout le discours sur le plombier polonais. Scandalisé. Bon. Mais les responsables français, les responsables politiques français, les responsables économiques français, les responsables syndicaux français n'ont pas été foutus de dire que l'entrée, la réunification de l'Europe et la ré-rentrée des Roumains, des Polonais, etc., ça a été une source de richesse incroyable pour les vieux pays de la zone Europe, notamment nous. Notamment nous. Mais la question, c'est ces richesses, elles profitent à qui? On les répartit comment? On les répartit comment? Quand EDF, après la chute du mur, va faire son marché pour racheter les débris des producteurs d'électricité d'Europe centrale, il se permet de rapatrier en France la richesse produite par les salariés de ces pays-là. Et dans ces pays-là, les gens payent l'électricité à peu près le même prix que nous, mais c'est donc beaucoup plus cher compte tenu de leur niveau de vie. Et les salariés d'EDF ont des royalties dans leur intéressement qui résulte du travail des salariés hongrois, roumains, etc., des usines que EDF a rachetées. Et donc la question de la, quand je parle de redistribution de la richesse, elle est aussi là. Elle est aussi là. Pourquoi est-ce que l'intéressement ou la participation au bénéfice de telle ou telle entreprise, elle n'est pas répartie sur l'ensemble des salariés qui, à un moment donné, participent à la production de la richesse de cette société? Alors, je vais au bout. Pourquoi est-ce que EADS a son siège social aux Pays-Bas, alors qu'il fabrique ses avions en France, en Allemagne, en Espagne et en Grande-Bretagne? Sinon que les politiques et les chefs d'entreprise se sont mis d'accord pour dire que l'endroit où on payait ses impôts sur les sociétés et l'endroit où on faisait travailler les gens, c'était pas les mêmes, y compris en Europe. Je pense qu'on a un tas d'exemples comme ça qui montrent que, enfin, je réinsiste, la question fondamentale qui nous est posée, c'est comment est-ce que dans un monde de plus en plus ouvert et multipolaire, on se pose la question des redistributions d'une manière globale. Je finis pour dire, ce qu'il est très tard, je partage complètement ce que dit Geoffroy sur la question des retraites chapeaux, sur les faits. Je partage complètement. Je rajoute que enlever les retraites chapeaux et les redistribuer aux gens, ça ne change pas les inégalités. Bon. Une fois que j'ai dit ça, il faut se rendre compte des dégâts profonds que fait dans l'opinion ces conneries-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, à côté de ça, il y a des scandales quand même, et des scandales un peu plus larges. Tous les salariés sont convaincus, avec raison, que les agents de la finance continuent aujourd'hui à vivre d'un système cupide, et que la crise dont Geoffroy parlait au début, cette crise du capitalisme, qui n'est pas la dernière, je suis d'accord, qui ne ressemble pas aux autres, parce qu'on est dans un autre monde, est une crise aussi du sens. Crise de sens, c'est pas qu'une crise de la question du financement de l'entreprise. Et je suis convaincu qu'il y a un vrai problème de fond sur la question du travail. Moi, je partage ça. Une vraie question de fond, pas analysée, mal analysée. Et je pense que la vraie manière de s'en sortir, c'est ce que vous avez dit, c'est que le dialogue dans les entreprises permette de définir quels sont les critères économiques et quels sont les critères sociaux qui font sens en termes de performance globale de l'entreprise et dans lesquels les salariés se reconnaissent. Et ça ne peut pas être une décision unilatérale de l'employeur, ça doit être une confrontation dans laquelle les salariés sont partie prenante.
Voilà, 20 secondes, oui, on applaudit tout le monde, mais pas là spécialement, 20 secondes, et puis on va en rester là.
On a un peu appelé après cet envolé final. Non, sur EADS, on peut aussi se poser la question de savoir pourquoi il y a un taux d'imposition plus faible en Hollande.
Plus fort, parlez. Pardon.
Je dis sur EADS, vous reprochez EADS d'avoir installé son siège social en Hollande. Mais.
Non. Écoutez, je suis désolé. Système global.
Allez, on y va.
La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'en Hollande, on paye moins d'impôts qu'en France ou en Angleterre. Je pense que c'est la question que nous, Européens, on doit se poser. Il n'y a pas de raison.
Je suis d'accord.
Et c'est la réponse. Enfin, il me semble que c'est la raison pour laquelle.
Voilà,
merci.
Voilà. Alors, on aurait envie de rester encore très longtemps ce soir avec vous parce qu'on voit bien qu'on touche à des sujets très importants et j'ai le sentiment qu'on ne les entend pas traiter comme ça toujours dans les médias. Enfin, en tout cas, moi. Et c'est pour ça qu'on organise d'ailleurs ces soirées ici, vous l'avez bien compris. Je voudrais vraiment vous remercier de votre présence et de votre type de parole ce soir parmi nous. Et là, on peut vraiment vous applaudir tous les deux. Je crois qu'on aura sûrement à revenir dans les prochaines soirées d'éthique publique sur la question du sens et de l'intérêt collectif et de l'intérêt général. Merci. Nous nous retrouverons, je l'espère, pour la prochaine soirée d'éthique publique qui aura lieu le premier mardi de janvier. Je crois que c'est le mardi 4 janvier. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fête de Noël.